19h-20h. Et les informer avec Adil Farkan sur Beur FM.
Quel plaisir de vous retrouver, chers amis auditeurs. Oh là 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 là, on est mardi. J'ai l'impression d'être vendredi, moi. C'est vrai ? On est mardi, que le début de semaine. Mais beaucoup me parlent de vacances. Alors sachez-le, beaucoup d'entre vous sont en vacances. Je leur souhaite de passer d'excellentes vacances. Mais en même temps, ne manquez pas à votre rendez-vous. Les informer sur Beur FM, toujours, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Allez, au menu, au sommaire de ce matin, des informés sur Beur FM, c'est parti. Nous allons recevoir tout à l'heure les débattants influenceurs autour de trois sujets qui ont retenu notre attention. Alors, paraît-il que le Covid, il commence un peu à bousculer les frontières. Clochette, n'est-ce pas, hein? Parce que là, franchement, stop! Stop! Non, mais vraiment, je dis stop. On commence à nous mettre la petite chansonnette, vous voyez, avant de partir en vacances. Le retour du pass vaccinaire, sanitaire, le retour du masque. Mais jusqu'où irons-nous, chers amis? Clochette! Ah ben tiens, on va en parler parce que certains sont déjà exaspérés par le fait qu'on leur mette cette petite chansonnette dans l'esprit. Et j'ouvrirai, tiens, l'antenne au 01 53 48 3000. Parce que partout en France, je voudrais vous entendre. Ensuite, on reviendra sur ce remaniement. L'opposition. Et vous savez ce qu'elle a dit, l'opposition? Eh bien, tiens, tiens, mon cher ami Macron, on te réserve une belle rentrée. Clochette, ça veut dire quoi, une belle rentrée? Lancement de grève, on va bousculer le Parlement, mais surtout, on ne laissera rien passer. Ah, il mérite une double clochette. Eh bien, nous, on en parle justement tout à l'heure avec nos débatteurs influenceurs, Rayed Chaibi, le président de l'Association de la coopération franco-tunisienne, mais aussi Farid Temsamani, consultant, il sera avec nous. 19h30, Faïza Bel Mohamed sera avec nous pour nous livrer son regard à les journalistes indépendantes et son quoi de neuf. Nasser Kétan sera peut-être avec nous tout à l'heure pour nous parler des 60 ans de l'indépendance d'Algérie. Vous le savez que depuis la semaine dernière, on en parle tous les jours. Et c'est essentiel parce que intellectuels, acteurs associatifs, acteurs sportifs, tous ici, vous les avez vus depuis la semaine dernière, écrivains aussi, ont défilé sur notre antenne pour nous livrer tout simplement des messages concernant ce 60e anniversaire de l'indépendance. Et ça se passe aujourd'hui, hein, je le rappelle, notamment l'Algérie est en train de le vivre en ce moment même. Et puis, on va parler, tiens, de MMA. Ça va fighter sur l'antenne ce soir avec notre invité Abdel Ghaznadji, justement, Clochette. Il est chaud, Abdel, hein, je l'ai venu là, il est arrivé, il a dit je vais en découdre avec le MMA. Ça va être bon, ça, vous allez voir. Et puis, vous, au 01 53 48 3000, vous le savez, plus que jamais, vous intervenez, mais surtout, en toute liberté d'expression, 01 53 48 3000, c'est parti.
Beur FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Et c'est parti pour l'interview et l'invité du jour.
Les informés. L'interview.
Co-fondateur MMA Grand Prix chez MMA Grand Prix, justement, fondateur et président du complexe sportif Oba Fight, fondateur et consultant sportif notamment de cette fameuse agence Fight Sport Management. Que de belles choses, que de parcours. Bravo et bonjour Abdel Ghaznadji. C'est ça.
Bonjour Adil.
Ça y est, je ne fais pas de faute. Comment ça va Abdel?
Très très bien. Et toi?
Vous savez que c'est un plaisir de vous accueillir ici.
Merci, le plaisir.
Bien dans le micro, rapprochez bien dans le micro.
Plaisir partagé.
Je sais que vous ne faites pas beaucoup de médias. Voilà, très comme ça, par compte-goutte.
Ouais, c'est ça.
Donc je suis honoré que vous soyez parmi nous.
Honoré.
Et notamment, ce week-end, il se déroule un grand événement, un grand gala de MMA, très attendu et déjà à circuit fermé, me semble-t-il.
Quasiment. Ouais, on arrive quasiment au bout de la jauge.
Samedi et dimanche, 9 juillet, 10 juillet, grand moment de gala MMA. Vous le savez, c'est une tradition depuis quelques années désormais. Le MMA est pas que toléré, il est officiel désormais, Abdel. Hein.
Tout à fait.
Et bien justement, Abdel, il a décidé de vous gâter. Il est venu, évidemment, c'est le moins qu'on puisse dire, j'ai envie de faire un jeu de mots, armé, justement, pour vous offrir des places. Et bien vous pouvez nous appeler au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000, le standard est ouvert. Abdel, le patron, l'organisateur de la MMA pour ce week-end, samedi et dimanche, vous offre une dizaine de places. Celui qui nous appelle parmi les premiers, ben, se repart avec ses places, justement. Donc, on vous attend. Le standard est ouvert. 01 53 48 3000. Ça y est, le standard commence déjà à exploser. Et vous allez échanger avec Abdel. Abdel Ghaznadji, justement, en direct avec lui. Il va vous offrir des places. Abdel, comment s'annonce le gala MMA de ce week-end? Ça se passe au Cirque d'Hiver. Ouais. Hein.
Ça se passe plutôt bien. Donc,
à Paris.
Ouais, exactement. Au Cirque d'Hiver, dans le 11e, 3e, c'est entre les deux. Mais ouais, tout se passe bien là pour le moment.
Tout se passe bien.
Ouais, pesée prévue vendredi. Donc, il y a eu un ou deux changements, notamment pour l'adversaire de Cédric Doumbé. On en a d'autres là qui arrivent, des petits changements, mais bon, rien de trop grave.
01-53-48-3000, les premiers partent avec les 10 places. Les premiers, je vous le dis tout de suite, Abdel Vougat, Abdel Kaznadji, nous offre des places. Et c'est pour vous en exclusivité dans les informés sur Beurre FM. Kamel De Vitry, bonjour.
Bonjour, bonsoir tout le monde.
Vous faites partie des premiers auditeurs justement à repartir avec 2 places. Abdel, ah ouais, vous écoute.
Grand fan de MMA.
Oh là là, Abdel vous écoute, allez-y, qu'est-ce que vous lui dites?
Ah ouais, grand fan de MMA, Cédric Doumbé, on est prêt à aller voir des beaux combats. Avec une belle réunion normalement, donc voilà, quand on est impatient.
Abdel, qu'est-ce que vous lui répondez?
Ben, Kamel de Vitry, on doit se connaître, parce que je suis de Vitry aussi à la base.
Ouais, je sais, là, t'as l'Obi Fight à Vitry, c'est exact. Possible de vue peut-être.
Ouais, tout à fait. Ben, écoute, super Kamel, je suis content de te faire gagner 2 places.
Ouais, 2 places,
cool, c'est ça. Super, ouais. Super gentil.
Via Beurre FM, bien sûr. Et donc là, je sais pas si t'as une question.
Merci Beurre FM, merci.
Nous, on fait gagner des places, c'est les premiers, justement, 0153483000. Vous nous appelez les 10 premières places. Kamel, ne quittez pas, justement. On va vous prendre prénom, nom. Le mail surtout, c'est ça hein, Abdel ?
Ouais.
Le mail, et puis on vous envoie les places par mail. Vous prenez Thierry Yanis, tu prends son mail, s'il te plaît, son mail, et on lui envoie, Abdel se fera un plaisir. 0153483000, si vous voulez repartir avec les places donc pour le MMA. Alors dites-nous, je vais quand même faire votre interview, parce que c'est quand même, vous êtes venu aussi pour ça, parce qu'on a quand même beaucoup d'appels, mais je vais les prendre en direct, l'un après l'autre, hein, 0153483000. Abdel. Ouais. Alors, le MMA, il a eu du mal à s'installer en France. Pour quelles raisons? Parce qu'on le sait d'ailleurs, Abdel Kaznadji, justement, depuis 2010, c'est officiel.
Depuis 2020.
Depuis 2020. Depuis 2020, excuse-moi, je ne sais pas pourquoi je parle de 2020. Depuis 2020.
La légalisation, ouais, c'est début d'année 2020.
Oui. Première organisation française de MMA, donc ça se passe ce week-end. Vous m'arrêtez si c'est
non.
ça?
Non. En fait, le premier événement a eu lieu en octobre 2020.
Oui.
Donc c'était nous, à Vitry-sur-Seine. Premier événement légal, enfin, officiel et légal, c'était le nôtre.
Oui.
En février 2020. Aujourd'hui, nous, on fait notre 6e édition. On a fait Jérôme Le Banner au Havre, un MMA GP édition Le Banner le mois dernier.
Oui.
Et puis là, on revient au Cirque d'Hiver. Il faut savoir qu'on l'a déjà fait en octobre dernier. Grosse réussite.
Le Cirque d'Hiver à Paris.
À Paris, exactement.
Et des combats de haute qualité, d'ailleurs.
Tout à fait.
De haute qualité. Ouais. Justement, Abdel, première question que j'ai envie de vous poser. Vous avez dit, on a pris notre temps pour se structurer. Vous aviez fait cette déclaration. Ça veut dire quoi, on a pris notre temps pour se structurer? Le MMA avait besoin de s'installer et de donner une bonne image, justement, après tout ce qu'elle a traversé comme période néfaste en France?
Ouais, tout à fait. En fait, il y avait surtout de la désinformation autour du MMA. Il faut savoir que c'était bloqué c'était pas interdit parce que c'était violent, parce que, enfin voilà, il y a eu plein d'hypothèses, mais non, en fait, c'était bloqué par certaines personnes qui ne voulaient pas voir le MMA arriver en France, justement, pour pas perdre de leurs intérêts. Et finalement, aujourd'hui, les portes ont été enfoncées. Et donc aujourd'hui, on est sur un sport légal qui est limite, on en parle quasiment pour les JO dans quelques années.
C'est ça.
Donc on a un retard qui est assez énorme. Il faut savoir qu'en France, on a un vivier.
Vous serez présent dans les JO 2024 sur Paris,
il me semble.
J'ai cru entendre ça.
Ah, hein. Je sais pas, alors j'ai pas l'info. J'ai
cru comprendre.
Ouais. Mais ce serait bien que le circuit amateur, bien sûr, le MMA a largement sa place aux JO aujourd'hui. C'est l'un des sports de combat les plus populaires au monde. C'est très structuré.
C'est très populaire, c'est vrai.
Exactement. Et c'est structuré, quoi, aujourd'hui. En France, dans chaque pays, hein, vous avez vraiment des grosses ligues qui existent. Et à savoir l'UFC qui arrive.
Après vos succès, on parle d'une fabuleuse success story vous concernant.
Ah bon?
Oui. Vous avez réussi un vrai pari. À installer le MMA avec les galas, avec des vrais combats de qualité.
Ouais. Alors, j'avais beaucoup de combattants à l'époque, avec Obi Fight, j'avais pas mal de combattants. Nous, on combattait déjà à l'étranger depuis quelques années. Hein. Depuis 2016, on envoie des combattants dans le monde entier. Et puis, au moment où l'occasion s'est présentée en France, je me suis jeté dessus. Septembre, on me dit que je peux organiser. La Fédé ouvre les licences. 4 semaines après, j'organise mon événement.
Abdel Kaznadji, justement le fondateur d'Obi Fight, avec cet événement à ne pas manquer, rendez-vous exceptionnel qui se déroule au Cirque d'Hiver à Paris, lieu mythique hein, d'ailleurs, ouais. Grand lieu mythique quand exactement. On connaît évidemment tous les grands de la boxe anglaise étaient présents.
Exactement.
On va continuer de faire gagner des places. Abdel a décidé de vous faire gagner des places. Les tout premiers doivent nous appeler au 0153483000. Morad, bonsoir, vous nous appelez de la Courneuve.
Ah, bonsoir.
Bonsoir, bienvenue. Vous venez de remporter deux places offertes par Abdel Kaznadji, le fondateur d'Obi Fight, pour ce week-end. Vous êtes content, Morad?
Ah ouais, sinon j'aurais pas appelé.
Oui, c'est vrai.
Gentil à lui.
Ben, il vous écoute, qu'est-ce que vous lui dites?
En tout cas, j'espère que la MMA, il va perdre ça en France, hein.
Il n'y a pas de raison, on a les armes pour, les meilleurs combattants sont en France, on les voit, on est partout dans toutes les organisations, donc on a un gros vivier. On a autant de bons footballeurs que de bons combattants de MMA en France.
Ah, voilà, je sais, des bons combattants.
Voilà, Morad, vous serez là, vous serez présent et vous allez le vivre au cercle d'hiver.
Inch'Allah.
Inch'Allah, comme vous dites. Merci, Morad, ne quittez pas, il y a Yanis qui va prendre vos coordonnées, notamment votre mail 0153483000. Il reste encore des places, vous nous appelez. Je vais quand même poursuivre avant de prendre d'autres auditeurs, justement. La légalisation du MMA, elle a pris du temps quand même. À un moment, on s'est même posé la question qu'elle était peut-être quasi impossible en France.
Carrément. Pour moi, j'ai été surpris, parce que ça fait 30 ans que je suis sur le circuit quand même, et j'ai été surpris de l'annonce et de la légalisation rapide qu'il y a eu tout de suite derrière. On nous en a parlé en septembre, je crois, 6 mois après, c'était légal.
Donc, Abdel, justement, la Fédération Française de Boxe, elle, en quelque sorte, elle a saisi, évidemment, hein, de professionnaliser le MMA.
Ouais.
D'accord ? Est-ce que ça vous gêne ? Est-ce que ça fait de l'ombre, justement, concernant votre organisation ?
Alors, oui et non, on a été surpris au début, parce qu'on s'est dit, bon, la fédération de boxe anglaise, il n'y a que les points, il y avait déjà des fédérations comme la FFKMDA ou la fédération de lutte qui travaillaient déjà des versions édulcorées, le grappling fight ou le pancras, donc c'était, voilà, il y avait déjà un corps arbitral, il y avait pas mal, on a été surpris, mais avec le recul, la seule fédération qui fait du sport pro, faut pas oublier que le MMA est pro et que la boxe anglaise est pro, c'est la fédération de boxe anglaise. Donc aujourd'hui, avec le recul, il est logique que ça revienne entre les mains de, je veux dire, la FFK MDA.
Donc le fait de boxer, évidemment, dans la même arène, ça vous dérange pas?
Non.
Non.
Non. Ça, non.
Pascal de Paris, tiens, Pascal, ça appelle, hein, vous savez.
Ouais, c'est cool.
C'est bien. On est à combien de places là, déjà? 2-4.
Ouais, 2-4. La prochaine 6.
Faites vite, 0153483000, les amis. Abdel, il a pas que ça à faire, hein, Kaznadji. Le fondateur d'Obi Fight pour ce week-end. Pascal, bonsoir, Pascal de Paris.
Bonsoir.
Bienvenue, on vous écoute. Vous repartez avec deux places. Deux places offertes par Abdel. Vous êtes content, mon cher Pascal?
Je suis une femme, oui, je suis très contente. J'adore regarder la MMA.
Vous kiffez la MMA, vous, Pascal? Vous,
oui,
en faites?
Oui. Pardon?
Vous en faites vous-même?
Non, mais j'aime bien regarder les combats quand il y en a à la télé.
Eh bien, vous savez quoi? Abdel Kaznadji vous fait plaisir. Il vous offre deux places. Il est royal. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Eh bien, merci beaucoup, Abdel. Et c'est super, en fait, que ça s'implante en France aussi.
Merci beaucoup, Pascal, pour votre soutien. En tout cas, on est heureux de vous recevoir.
Oui. Merci Pascal. Pascal, ne quittez pas. Justement, Pascal, Yanis va vous prendre votre mail comme ça. Abdel vous enverra, enfin son équipe. C'est pas Abdel, c'est son équipe. Hein. On a qui encore? On a beaucoup d'affaires. Hein, mais je pense qu'à mon avis, c'est les premiers hein, servis. Hein. Il nous reste combien? Deux places encore?
Ouais, c'est ça. Deux fois deux.
Et le reste, tant pis pour eux.
Ça va être ça.
Ça va être ça. Alors, je vous laisse le choix, Abdel. Stain ou la Courneuve? Aïe.
On vient de faire la Courneuve. Allez, on donne une chance à Stain.
Ou Bagnolet. Attendez. Vous avez la Courneuve, Stain ou Bagnolet. Wow. Ah là, c'est périlleux ce que je vous propose.
Allez,
hein.
J'ai dit Stain. On va pas revenir sur. Je viens de dire Stain.
Vous êtes sûr?
Ouais.
Certain.
Allez,
c'est votre dernier mot?
C'est mon dernier mot.
Je répète, la Courneuve, Stain ou Bagnolet.
Ouais, bah, j'ai dit Stain pour pas refaire la Courneuve et vous m'avez dit Bagnolet après. C'est pas bon pour les gens de
Alors, Stain. Alors c'est Mohamed de Stain qui remporte les deux places. Mohamed, vous êtes heureux? Bonsoir, mon cher Mohamed.
Oui, donc au plus que vous êtes tombé dans un boxeur, ancien boxeur.
Non.
Vraiment, je te promets, j'ai pratiqué la boxe depuis 84 jusqu'en 99. Donc, depuis que je rentre en France, je trouve aucun club qui me porte comme un boxeur ou comme un entraîneur.
Bon.
Et je vous explique pour MMA, Inch'Allah, que ça va donner un bon valeur pour MMA.
Abdel Kaznadji, le fondateur de ce grand gala de MMA. Je vous promets, ça va être énorme ce week-end. Et il vient de vous offrir deux places. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Bien sûr, pourquoi pas.
Bah écoutez, pourquoi pas. Eh bien, merci à vous, mon cher Mohamed.
Merci Mohamed.
Je vous remercie beaucoup, Yifi.
Il disait félicitations, il vous disait.
Ah, merci beaucoup, Mohamed.
Mohamed, ne quittez pas, il va prendre. Oui.
On peut reprendre Aubervilliers ou pas? On va rajouter deux places, on peut pas le laisser.
C'est pas
comme
Aubervilliers.
Ça.
Alors attendez, non, si vous voulez rajouter deux places, choisissez la Courneuve ou Bagnolet.
Ah, c'était Bagnolet, pardon. Bah ouais, s'il était en attente.
Ah, il a de la chance, Morad. Bonsoir, Morad de Bagnolet. Morad, De Bagnolet, il est où Morad de Bagnolet? Il est là, il est avec nous ou pas Morad? Non, non, de Bagnolet, Morad, bonsoir Morad.
Messieurs.
Oh là là, Abdel, il est, il est royal. Vous savez quoi? Il a exposé son quota de 10, il m'a dit. Allez, c'est la joue royale. Vas-y, on va offrir encore deux places. Vas-y. Morad, vous avez de la chance. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Merci. Je remercie le maître et courage à nos combattants.
Oui. Merci beaucoup, Morad, c'est gentil.
Merci.
On est inondé de coups de fil, je vous le dis tout de suite.
C'est super. Ça me fait plaisir.
Non, mais là, le standard, il explose.
C'est génial.
On peut pas prendre tout le monde. Ça y est, on arrête.
Ça va être dur pour nous tous.
Eh bien, écoutez, voilà, 12 places.
Ouais, super.
12 places, bravo à vous tous. Merci, Abdel.
Merci à toi.
Merci, bravo. On va continuer de petite interview. Vous quittez pas Morad, parce qu'il va prendre justement votre mail. Je continue ma petite interview, mon cher Abdel. Justement, est-ce que vous pensez que cette jeune génération aujourd'hui, qui aime, vous avez parlé d'un sport populaire, la jeune génération aujourd'hui pratique le MMA. Qu'est-ce que vous lui dites justement quand on pense à la discipline, aux règles, quand on pense évidemment à tout ce dispositif qui commence à s'installer en France aujourd'hui? Vous lui dites quoi? Elle vous écoute, elle est nombreuse.
Ouais. Ben en fait, faut prendre les choses dans l'ordre. J'ai beaucoup de justement, on a un petit effet accélérateur. Beaucoup de gens veulent combattre, des gens qui n'ont jamais combattu ou qui ont fait quelques combats amateurs, on est beaucoup sollicités. Moi, je leur demande de faire les choses dans l'ordre. D'accord, ça passe. Le MMA, c'est pas rien. C'est un sport qui fait beaucoup de bruit, qui demande beaucoup de technique, beaucoup d'expérience avant de pouvoir se retrouver à un niveau professionnel. Là, je fais confiance à la FMMAF, la fédération de MMA, justement parce que là ils installent, ils commencent à avoir des galas amateurs, justement pour pouvoir lancer tout doucement vers des organisations pro comme les nôtres. Nous, voilà, on commence à regarder le circuit amateur pour les jeunes et on met d'ailleurs le premier combat amateur au Cirque d'hiver. Donc il y a premier combat d'ouverture avec protection.
Comment vous faites pour repérer les nouveaux talents, le vivier de demain?
Je travaille avec
les grands combattants de demain.
En fait, je travaille avec quelques managers, quelques clubs. Il faut savoir que le circuit est assez petit, donc on arrive à repérer assez vite qui fait quoi. Et puis après, il y a les clubs formateurs.
Quel est le grand combattant de demain?
Quel est le grand combattant? Il y en a plusieurs. Là, par exemple, sur mon plateau, il y a Alphand Rocher qui combat. C'est un jeune de la Old School Academy. Il a 23 ans, je crois. Ça fait deux fois.
Prometteur.
Ouais, carrément.
Carrément.
Ouais. Il va faire un gros fight. Vous allez voir, il y a un gros fight attendu. Je crois que c'est il combat en quatrième avant la fin. Donc, il se rapprocherait des main events. Et voilà, c'est un gros client. Je pense que c'est un garçon qui va faire un beau parcours. Il vient de la Old School Academy où il y a Michael Aljarouge aussi. C'est un club qui forme tout jeune. Ils ont tout compris. Et puis, ils amènent des combattants à maturité et dans de bonnes conditions.
Merci et merci. Bravo pour ce que vous faites. Bien sûr, allez-y.
Un truc que je fais jamais, c'est pour mes parents qui sont très loin de moi et que je vois très peu, une fois par an. Le Covid nous a vachement espacé. Il y a eu une distance. Et donc voilà, je voudrais embrasser mon père, Mohamed, ma maman, Lamria, et puis toute ma famille, mes frères, sœurs, Kamel, Yasmina.
Et le message est passé. Voilà, j'écoute, j'espère.
Ils sont tous là à écouter. Donc voilà.
Et vous pouvez être fier de votre fils, hein, Abdel.
Merci.
Et on les embrasse aussi également. Merci à eux parce que, évidemment, ce qui nous attend ce week-end est un grand moment de MMA à ne pas manquer. Grand gala.
Je rajoute un petit truc. Le Muay Thai Grand Prix le lendemain. Il y a une grosse carte montée par mon associé Eric Conaco. Et donc voilà, faut pas louper les
événements.
Du lourd. Ça va être énorme.
Beurre FM, 19h, 20h. Les informés avec Adil Farkan.
19h27 et c'est parti pour le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face, c'est parti avec Farid Tamsamani. Bonsoir.
Bonsoir Adil.
Comment ça va mon cher ami?
Très bien.
Bon, tout va bien. Rayed Chaibi, bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va?
Très bien.
Bon, on va allumer votre micro puisqu'il n'est pas allumé.
Ah!
Voilà, c'est nettement mieux. Bonsoir. Alors messieurs, nous allons partir tout de suite avec ce premier sujet. Gouvernement, remaniement, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis surtout, je dirais une chose, est-ce que Elisabeth Borne a réussi à installer une confiance? Est-ce que ce tout nouveau remaniement est un remaniement qui plaît justement et qui était très attendu aux yeux à la fois des opposants mais aussi des Français? Raïd Chaibi?
Écoutez, s'agissant du remaniement, oui, il était attendu. Forcément, il faut aller de l'avant. Hein. Après avoir une élection législative où on a vu que la majorité était très, 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 très étriquée, il était normal de mettre en place ce qu'elle a appelé un gouvernement de combat. Dans une situation, effectivement, où on a une crise sanitaire maintenant qui revient, couplée avec une crise économique, plus la crise à l'est de l'Europe, donc forcément en Ukraine, donc forcément nécessité de mettre en place un gouvernement qui, pour le coup, n'est pas un gouvernement de large ouverture, puisque vraisemblablement, et ça a été acté par le président de la République, qu'il n'aurait pas, comment dirais-je, de coalition large, mais on se dirigerait vraisemblablement vers des coalitions texte par texte. Donc le gouvernement, quelque part, il est à l'image de la majorité actuelle. Et je me permets d'ailleurs d'en profiter, si vous me le permettez, de saluer notamment la nomination d'Olivier Klein, le maire de Clichy-sous-Bois, comme ministre de la Ville
bon
et
choix,
du Logement.
Excellent choix.
D'abord parce que, bien sûr, il a démontré, comme maire de Clichy-sous-Bois et comme président de l'ANRU, que c'était une personne, d'abord, qui connaît les sujets et les thématiques de nos quartiers populaires. Et je l'espère, demain, en tant que ministre de la Ville, il sera en mesure de pouvoir faire davantage. Donc, des profils très intéressants comme Olivier Klein, dont je salue la nomination. Et donc, effectivement, un gouvernement de combat. Premier examen de passage demain d'Elisabeth Borne devant l'Assemblée nationale. Elle n'a pas sollicité, je crois, de vote de confiance. Évidemment, dans une situation comme celle-là, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, un gouvernement de combat qui, à n'en pas douter, sera à la tâche.
Farid Amsamani, justement, comment vous l'avez vécu, ce remaniement, et puis ce tout nouveau gouvernement qui a été dévoilé il y a quelques jours, incarné par Elisabeth Borne?
J'ai l'impression que c'est un gouvernement un peu poussif. On a l'impression qu'ils ont...
Certains on reprend les mêmes et on recommence.
Oui, une grosse partie, effectivement, des membres du gouvernement l'étaient déjà. Il y a eu la sortie de quelques personnalités, d'une certaine manière, notamment Abad, pour ses histoires, en tout cas, les accusations dont il fait l'objet. Donc, effectivement, un gouvernement poussif. On a l'impression qu'ils ont pris quelques députés qui maîtrisaient les arcanes de l'Assemblée. Donc, du coup, on sait pertinemment que là, du coup, le vrai, contrairement au premier mandat du président de la République, là, on va avoir des vraies luttes à l'Assemblée nationale. Donc, du coup, il fallait des ministres, des secrétaires d'État qui maîtrisaient des politiques, qui maîtrisaient surtout les choses. Donc voilà, pas grand chose à mon avis à dire. Je pense qu'un certain nombre de personnalités ont refusé d'entrer dans ce gouvernement et que il marque l'échec. Vous savez, le lendemain des législatives, il y a eu la petite musique de la volonté de créer une coalition avec le parti du président de la République et les alliés, donc une coalition. Il aurait bien voulu, à mon avis, que les LR puissent le rejoindre, ou voir des anciens socialistes. En l'occurrence, c'est un échec, puisque aucun groupe assez puissant ne rejoigne le président. Et donc, du coup, c'est un remaniement, d'une certaine manière, pour moi, qui est relativement faible. On va voir combien de temps ça va durer.
Combien de temps ça va durer, justement? Beaucoup disent que, évidemment, ça s'annonce pas forcément bon, parce que c'est un remaniement un peu technique, justement, pas assez d'équilibre. Il n'y a pas de cet équilibre qui était attendu, politique, justement. Et que Macron, il est dans une dynamique, une politique inchangée, Raïd Chaibi.
En même temps, il n'avait pas forcément le choix.
Oui, c'est ça la réalité. Si, pourquoi?
Comment voulez-vous, d'abord, la première question qui s'était posée.
Et puis, retour surprise de Marlène Schiappa.
C'était assez inattendu. Titre personnel, je vois pas quelle peut être sa valeur ajoutée, très sincèrement.
Oui.
Quand on compare avec d'autres ministres, quand je compare avec Jean-François Carenco, l'ancien préfet, qui a une très grande connaissance des Outre-mer et qui peut apporter quelque chose, comme Jean-Christophe Combes, notamment, ou que celui qui a remplacé Damien Abad, le nouveau ministre des Solidarités, ancien président de la Croix-Rouge, qui effectivement ont une expertise de terrain et qui peuvent, je pense, apporter. Mais pour revenir sur l'aspect global de ce gouvernement, j'ai surtout envie de dire qu'ils n'avaient pas le choix, puisque à la base c'était trouver une majorité élargie, essayer de voir s'il y avait la possibilité d'ouvrir la majorité à des divers gauches constructifs, entre guillemets, et des divers droites constructifs également. Ça n'a pas été le cas. Eh bien, vous devez composer un gouvernement qui soit à l'image de votre majorité, qui a été ouvert à la société civile vraisemblablement, mais la situation politique fait que vous avez un gouvernement, dont l'ouverture s'est faite, à la marge, mais avec, pour le coup, une marge de manœuvre limitée compte tenu de cette majorité extrêmement relative.
Bon, très peu d'entrantes, justement, vous le disiez. Marlène Schiappa, le retour. Un peu surprise, effectivement. Beaucoup se sont interrogés, se sont posé la question. Mais surtout, pas d'LR, très peu d'LR, très peu de gens du PS, de gauche. Donc finalement...
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... On dit très, très souvent...
À quoi joue Emmanuel Macron?
Le lendemain d'une réélection, quand on a la chance d'être réélu, en fait, le pouvoir n'existe quasiment plus dans les mains du président de la République. Pourquoi? Parce que les gens se projettent. C'est dur à dire, alors qu'il y a des sujets très importants pour les Français. Mais les gens qui font de la politique politicienne, ceux qui en vivent notamment, se projettent déjà dans l'après Emmanuel Macron. La réalité, c'est celle-ci. Et donc, vous avez un certain nombre de personnalités, de gauche comme de droite, qui ont refusé de rentrer au gouvernement. Je ne vais pas le citer, mais il y en a un, notamment le docteur Juvin, qui s'est fait élire notamment député, qui lui a clairement refusé de rentrer au gouvernement. Il y en a certainement d'autres. Donc du coup, pourquoi on refuse de rentrer au gouvernement? Pourquoi on n'accède pas à cette fameuse coalition, ou en tout cas d'un certain nombre d'élargissements de la majorité? C'est parce qu'on le sait pertinemment deux choses. On sait que le président de la République n'a plus, en tout cas de moins en moins, aura de moins en moins de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'ici maintenant, le compte à rebours a commencé, c'est-à-dire que dans moins de 5 ans, il ne sera plus président de la République. Et en plus, on sait que d'un point de vue de la majorité, n'ayant pas de majorité absolue, on sait que tôt ou tard dans le mandat, on risque d'aller vers une dissolution. On verra comment ça se passera, mais à mon avis, tout ceci est risqué. C'est la raison pour laquelle on ne se précipite pas à rentrer dans ce gouvernement et qu'on rappelle d'une certaine manière les plus fidèles, parmi eux Marlène Schiappa, effectivement.
Alors justement, on continue d'en parler. Qu'est-ce que vous voulez dire, Jamie?
Non, mais c'est surtout que quand je dis tout à l'heure qu'il y avait pas le choix, il y a aussi une réalité politique. On n'avait que deux choix dans cette affaire. Soit avoir une majorité élargie et donc un gouvernement élargi en conséquence, ou alors une majorité très relative et donc une coalition entre guillemets texte par texte. La première solution n'ayant pu être réalisée, c'est la deuxième automatiquement qui est mise sur la table. Donc c'est pas étonnant quelque part.
On va marquer cette seconde et dernière pub justement, et on se retrouve pour parler de pouvoir d'achat, de prix, justement du carburant, d'alimentation, de nouvelles mesures pour le pouvoir d'achat. Mais est-ce que cela ne s'annonce pas justement avec ce Parlement, ce tout nouveau Parlement, très tendu? On va en parler. On parlera aussi du Covid-19. Le retour d'un probable pass sanitaire est-il possible? Grand point d'interrogation, messieurs. Et puis vous aussi au 01 53 48 3000. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h, 20h. Les informés avec Adil Farkan.
Avec Rayed Chebi, avec Farid Temsamani, 0153483000, si vous voulez intervenir. Ça y est, le Covid-19 est déjà... la question se pose du retour du pass sanitaire. Est-ce qu'il est de retour dans un cas précis ou pas? Est-ce qu'il va être évidemment officiellement... est-ce qu'il reviendra, dès le 1er août? On en parle, vous savez, y compris aux frontières, 0153483000. Qu'en pensez-vous? Je vous attends. Farid Temsamani, Rayed Chebi, dites-moi... Alors, ce dispositif qui est ambigu d'ailleurs, bientôt aux frontières, ce dispositif aussi avec ce retour du pass sanitaire, ce dispositif avec évidemment une réalité, c'est-à-dire que le Covid-19 aujourd'hui, on parle de plus de 100 000 cas par jour, est-ce que la situation est préoccupante au point de remettre en place ce système sanitaire, masque, pass sanitaire, mon cher Farid Temsamani? Ça vous fait sourire, mais c'est pas marrant.
Non, c'est pas marrant parce qu'il y a des gens qui en meurent, donc faut bien comprendre que c'est pas à part plaisir. Pourquoi je souris à demi-mot? Parce que avant la crise du Covid, vous m'auriez posé la question: est-ce que nous arriverons vers un pass sanitaire avec autant de restrictions? Franchement, j'aurais parié pour vous dire que c'est impossible.
Mmh, c'est
la réalité, c'est qu'on a eu des choses inimaginables. Donc ça, c'est une chose.
Oui.
Ensuite, la réalité, c'est quoi? C'est que on est en plein été et on a, vous avez dit, Adil, 100 000 cas à jour, c'est ça, à peu près.
Plus de 100 000
donc,
cas.
On monte même à 200 000.
Voire demain, même 200 000.
Demain.
Alors, je me souviens plus trop des statistiques d'il y a un an, l'été d'il y a un an ou l'été d'il y a deux ans. Je pense pas qu'on était aussi haut en réalité.
Non.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'automne qui approche, or on sait que c'est l'automne et l'hiver où ce type de...
On parle même pas d'automne, on parle de cet été.
Non mais... Théoriquement, c'est en automne et en hiver que les cas les plus lourds, en tout cas,
je peux vous donner
Oui.
Là, au 4 juillet, on est à 243 248.
Et en décès, on est à combien ? Parce que la vraie question, en réalité, c'est est-ce que les hôpitaux sont, sont saturés ou
non,
pas ?
Non.
Donc,
non.
Parce que en France, en fait, on prend les choses à l'envers. C'est que le baromètre important, malheureusement, dans notre pays, c'est est-ce que nos urgences sont saturées ou non ? Et la question, elle est là. Et donc, du coup, on fait de la prospective. Est-ce que dans une semaine, dans deux semaines, dans un mois, dans deux mois, est-ce que ça va être ça ? Vous savez, les fameuses courbes où on nous inventait tout et n'importe quoi à la télé. La réalité, c'est celle-ci. Moi, franchement, je dis bon courage à qui que ce soit qui doit prendre des décisions en la matière. Maintenant, est-ce que le pass sanitaire est une bonne chose ou pas une bonne chose ? Je pense que ça a permis de réduire incontestablement des morts, très vraisemblablement. Maintenant, j'ai un problème d'un point de vue de la liberté individuelle,
oui.
Mais le problème, c'est que ça l'a déjà été acté, on l'a déjà eu, donc je pense que ça peut revenir à tout moment, malheureusement.
Red JB 0153483000, nous vous attendons aussi au standard pour vous nous livrer votre avis. Red JB, est-ce qu'on peut être préoccupé, mais surtout, est-ce que les gens, ils ont envie de, finalement de remettre le masque, présenter leur passe sanitaire et replonger, si vous voulez, dans cette espèce de truc qui nous mine finalement.
Est-ce qu'il faut être inquiet de la situation ? Oui, parce que je pense, bon, c'est le sous-variant d'Omicron, etc., sans rentrer dans les détails, qui effectivement repart et est extrêmement contagieux, qu'il ne fasse pas plus
contagieux,
de
mais pas dangereux.
Tant mieux. Même si on a malheureusement qui en meurt. Ensuite, sur le, comment dirais-je, le port du masque, moi j'y serais extrêmement favorable, notamment dans les transports ou en tout cas dans les lieux qui concentrent beaucoup de circulation et beaucoup de personnes. Sur le pass sanitaire, je suis en revanche beaucoup plus dubitatif au moment où on se parle.
Mmh.
Parce que, évidemment, si vous avez un pass sanitaire, c'est que vous êtes vacciné, sauf que ceux qui sont vaccinés, ils le sont pas depuis hier ou avant-hier.
Non.
Ils le sont depuis le dernier rappel, entre guillemets, en tout cas, la dernière vague de vaccination qui a eu lieu, c'est-à-dire quand le variant Omicron est arrivé, donc décembre, janvier. Donc ça veut dire que n'importe quelle personne, à l'heure actuelle, vaccinée depuis 6 mois et détenteur du pass vaccinal peut très bien avoir le Covid dans les jours ou les semaines à venir. Donc la remise en circulation entre guillemets du pass sanitaire au moment où on se parle, je suis assez dubitatif, en tout cas pour l'instant. Mais sur d'autres mesures sanitaires comme le port du masque, bien évidemment que j'encourage à ce qu'on le
porte.
Vous
le portez vous-même ? Vous le portez vous-même ?
Oui. En ce moment ?
Oui, du tout. Y compris dans les transports en commun.
Je prends pas les transports en commun.
Bon. Moi, je le porte dans les transports en commun et quand nous sommes en réunion.
En réunion, vous le portez ?
Oui.
Donc très précautionneux.
Bah, face à cette
hausse des cas. Si demain vous prenez l'avion, vous le mettez ? Vous le portez ?
J'ai pris l'avion dernièrement et en fait, on nous l'oblige pour certaines destinations.
Ah bon ?
Oui. L'Italie, par exemple.
L'Italie où on
voit. FFP2 obligatoire.
FFP2 obligatoire pour l'Italie.
Et ouais, c'est
ah oui, ouais. Bah vous nous apprenez quelque chose, effectivement. Ouais. Donc, en fonction des voyages, on est contraint de porter le masque.
Dans un avion, ça peut se comprendre. C'est comme les transports en commun. C'est que vous êtes dans un
confiné.
Vous êtes confiné d'une certaine manière. Donc moi, je peux comprendre, je peux respecter le fait qu'on nous le demande. Mais ce que dit Rayad est très très juste, c'est-à-dire qu'en fait, il faut faire très attention. Donc du coup,
exactement.
Si on oublie le Covid. Par exemple, l'histoire du masque, en réalité, dans certaines populations, notamment en Asie, en fait, avant même le Covid, on portait régulièrement le masque.
Oui.
Parce que...
pas pour les mêmes raisons, pour la pollution.
Pour la pollution, mais
pour
aussi,
la pollution.
Mais aussi pour la pollution. Transmission de virus.
Oui, mais parce qu'en fait, au départ, c'est la pollution, mon cher Farid. En Chine, par exemple.
La Chine, notamment. Mais l'histoire du gel.
Oui.
L'histoire du gel. Le gel, on n'a pas attendu le Covid pour avoir du gel.
Ça, c'est vrai.
Il y a toujours eu du gel.
Toujours.
Par contre, il y a très peu de gens qui utilisaient le gel.
Exactement.
Pourquoi on utilisait le gel ? Pourquoi ? Parce que très souvent, notamment en automne et en hiver, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est sujet très souvent à des maladies infectieuses. La plus connue étant la grippe. Je rappelle que les gens continuent à mourir de la grippe, hein, et on n'en fait pas non plus des cas comme le Covid. Et donc, du coup, le gel a toujours existé. Je pense que ça, si ça nous a amené, d'un point de vue pédagogique, à une meilleure éducation. Globalement pour nous tous pour sauver sa santé ou celle des autres, je pense que c'est une bonne chose. Après, là où j'ai un doute, t'as complètement raison, hein, sur l'histoire du pass sanitaire, parfois ça devient tellement anxiogène qu'en fait ça devient presque n'importe quoi. L'histoire du pass sanitaire, encore une fois, je rappelle que d'un point de vue des libertés individuelles, moi je trouvais qu'on était très 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 limite en la matière.
Oui.
Mais voilà, encore une fois, je suis pas ministre de la Santé, je suis pas Premier ministre, et je pense que lorsqu'on a l'obligation de raisonner pour l'ensemble du pays, c'est plus compliqué que d'être derrière un micro comme je le suis maintenant.
Autre sujet, messieurs, avant de clore cette émission, vous savez, on parle de plus en plus de cette nouvelle mesure concernant les aides au carburant, au prix de l'alimentaire, prêt garanti. Bref, le pouvoir d'achat en un seul mot, et évidemment, qui est la première préoccupation, vous le savez, des Français. Sauf que, bon, ça va se compliquer d'ici peu de temps pour mettre en place ces mesures dès cet été. Alors, franchement, messieurs, tout coûte cher aujourd'hui. Est-ce qu'on va s'en sortir ? C'est vrai. Les fins de mois sont difficiles. Moi, je l'entends, les auditeurs, ils le disent en permanence.
Mais c'est une réalité, il n'y a pas besoin de faire...
Sauf que là, c'est chaud.
Non, mais c'est plus que chaud, ça n'a pas commencé aujourd'hui. L'augmentation de l'énergie, et notamment des carburants, c'est quelque chose qui date maintenant, depuis maintenant quelques années presque. Hein. L'histoire des gilets jaunes, c'était pas 2020, hein, c'est bien avant.
Oui, sauf que certains vous disent que nous ne laisserons pas passer les profiteurs de la crise inflammationniste.
Ouais, je vois pas comment ils ne laisseraient pas passer.
Bon.
Franchement, c'est bien beau de faire des discours.
Des déclarations.
La réalité,
des
c'est quoi ? C'est qu'on est en plein été. On est en plein été et l'énergie est déjà à son plus haut niveau. En plein été. On va arriver à l'hiver et il va y avoir de ce qu'on appelle des restrictions. Alors pas pour les particuliers, parce qu'en réalité, c'est pas les particuliers qui consomment le plus d'énergie, contrairement à ce que l'on pense. C'est surtout les industries. Or, la richesse d'un pays, c'est ses industries. Et là, vous allez avoir des industries qui vont devoir, en tout cas, fermer une partie de leur production parce que, justement, l'énergie est tellement chère et qu'on va rationaliser. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en la matière ? Ce que je regrette, notamment sur l'énergie, notamment sur l'essence, que l'on paye tous, c'est qu'en fait, le gouvernement fait ce qu'on appelle, quel que soit, et je pense que c'est un raisonnement qui est très administratif, qui est très, très Bercy, on va dire, c'est qu'en fait, au lieu de raisonner à une modification de la taxation pour que l'augmentation ne soit pas supportée de manière la plus forte pour le citoyen, pour le français, en fait, qu'est-ce que l'on fait ? C'est qu'on va saupoudrer en donnant des chèques ici ou là, en se disant de toute manière, il faut quand même que ça continue que ça puisse continuer à rentrer.
Sauf que les chèques aujourd'hui ne fonctionnent plus. Ça ne fonctionne plus, ça passe pas.
Je sais pas. Ça a fonctionné il y a quelques mois.
Oui.
Franchement.
Sauf que là, ça passe pas.
On verra. On verra.
Vous pensez que vous êtes convaincu ?
Bah, il suffit d'augmenter le chèque, hein, malheureusement.
Ah oui, si on augmente le chèque, ah, oui.
Voilà.
Oui.
Donc ça continuera à passer malheureusement.
Vous savez que le chèque, l'histoire du chèque, ça existe depuis déjà Mitterrand, hein, à l'époque. Hein.
Mais non, c'est pour ça que je disais que ça n'est pas propre à ce gouvernement-là.
Ben non.
Ce qui est hallucinant, c'est qu'au lieu de dire, en fait, on a une taxation qui est trop importante, donc on va peut-être essayer de remédier à ça, eh bien non, en fait, on dit non, en fait, on ne veut pas modifier, parce qu'en fait, on s'enferme dans un système et on ne veut surtout pas changer de vision là-dessus. C'est complètement navrant.
Right, JB?
Que la vie effectivement soit chère, ça c'est indéniable. La crise en Ukraine n'a pas arrangé les choses. Le président de la République d'ailleurs l'avait clairement dit, il avait annoncé la couleur, je crois, lorsqu'il avait visité le salon de l'agriculture, en disant que faut être réaliste, il y a beaucoup de choses qui vont changer de par cette crise. Il y a, ça doit passer normalement jeudi, je crois, un paquet entre guillemets pouvoir d'achat qui va être discuté à l'Assemblée nationale, 25 milliards sur la table, ça n'est pas rien. Parmi ces mesures, il y a notamment des mesures sur la maîtrise des carburants. Je crois une baisse de 18 centimes, je crois avoir vu ça, plus le fameux chèque pour justement soutenir et accompagner les personnes qui utilisent leur véhicule. Je pense qu'il faut regarder mesure par mesure. Ce qui peut
Est-ce
être,
que tout cela ne présage ce pas peut, une rentrée peut, assez mouvementée?
Parce bien
que
sûr.
La
bien
question
sûr.
Qu'on se pose, c'est que dès la rentrée, les gens, bon, là, ils ont qu'une idée en tête, c'est
bien
les
sûr.
Vacances,
bien
évidemment,
sûr.
Changer d'air, aller profiter du beau temps,
mais surtout avec ce qu'on vient de traverser, messieurs,
c'est que on a besoin de respirer, de se poser. Est-ce que la rentrée ne s'annonce pas chaudement explosive,
oui,
messieurs ?
Oui, et c'est pour ça que les discussions doivent vraiment avoir comme seul point cardinal ce qui peut être véritablement profitable à chaque Française, à chaque Français sur le long terme.
Farid ?
Sur la rentrée.
Quelle prévision pour la rentrée ?
Bien sûr que
ça sent pas bon.
D'un point de vue social, elle va être très compliqué. L'automne va être très compliqué. Maintenant, moi, je pense que les gens vont pas attendre la rentrée. Déjà,
Il y a déjà des mouvements là.
Tout le monde ne partira pas en vacances cet été.
Oui, ça c'est vrai.
Et ceux qui auront la chance de partir, parmi ces gens-là, vous avez des gens qui vont se restreindre, tout simplement. L'énergie étant tellement, les carburants étant tellement chers, les péages étant tellement chers, il y a plein de choses qui font qu'il y a beaucoup de gens qui vont se restreindre. Et je pense que la grogne va déjà commencer cet été.
Merci à Farid Temsamani, consultant. Merci à Raed Chebi, président de l'Association Coopération Franco-Tunisienne. J'ai le temps d'annoncer Bilal ou pas ? Très court. Bon, Bilal ! Bilal Nenman, viens nous annoncer ton programme, tiens. Bilal, qui vous attend de 20h à 21h. C'est le grand show sportif. Quel est le programme de ce soir, mon cher Bilal ?
Le programme, c'est Pochettino, ce soir.
Oh.
Justement, qui part, bel et bien, et qu'on a l'arrivée du fameux coach marseillais, Christophe Galtier. Voilà, on parlera aussi.
Très Marseille, hein.
Tudor.
Ouais,
Igor.
Meunier, est-ce qu'on peut dire que Bilal, quel maillot tu portes, Bilal ?
Maillot, eh ben, de Boufalec.
Il est beau.
Droit au but.
Il est droit au but, c'est ça. Le
magnifique maillot, c'est ça. Magnifique maillot.
Bilal, qu'on retrouve dans une poignée de minutes, justement, dans Time Sport. Bonne émission, mon cher Bilal. À demain avec autant de plaisir, mais surtout, on ne lâche rien, c'est à la réalisation. Yanis, prenez soin de vous.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.